tomber en marche. Bonjour, je voulais juste vous dire la joie qui est la mienne d'être des vôtres à cette occasion. Alors si vous êtes là pour la première fois et que vous êtes vraiment surpris, je dois reconnaître que c'est une église bizarre. Alors moi je suis arrivé sur les églises évangéliques sur le tard, je suis né dans une famille plutôt remontée contre le christianisme et la première fois que j'étais dans une église c'était bizarre, mais celle-ci elle est encore plus bizarre. C'est la première église où on offre des chaussettes colorées à quelqu'un. Je veux dire, donc, vous inquiétez pas, ça vous arrivera pas forcément. Ça doit être une tradition unique qui se mettra en place peut-être dans cette assemblée. Mais n'ayez pas peur, c'est peut-être le message que je dois vous donner. Et le pasteur qui contribue avec les responsables de cette église traitait d'un livre de la Bible qui s'appelle l'Ecclésiaste et ils m'ont demandé de rester sur ce thème et de continuer. Donc ce dimanche et le dimanche suivant, on va faire les deux derniers chapitres d'un livre que je trouve vraiment, vraiment porteur de sens. Mais bon, c'est un livre qui est un peu étrange parce qu'il a été écrit il y a 3000 ans. Et il y a 3000 ans, les gens ne réfléchissaient pas de la même manière, hein, c'est évident. D'accord ? Donc si jamais ça vous surprend, certaines des formulations, ou ça vous semble un petit peu, un peu suranné, c'est normal. Il y a 3000 ans, il y avait cet homme qui s'appelait Salomon, et qui était roi, et probablement le plus grand roi qu'Israël ait connu en termes de son impact sur une société qui était devenue un petit peu paisible. Son père, David, était un guerrier qui avait su stabiliser un peu la région, qui avait su aussi unifier le royaume. Puis il est décédé et il a cédé la place à cet homme, son fils, Salomon. Et Salomon, c'était le gars, vous ne vouliez pas jouer avec lui au Trivial Pursuit. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a toujours des gens comme ça, on n'aime pas jouer avec eux parce qu'ils gagnent tout. Voilà, il remporte, vous lui posiez des questions, il savait répondre à toutes les questions, et le premier, donc il gagnait toujours. En fait, il a passé sa vie, et c'est vraiment le témoignage que nous laisse son passage sur Terre, il a passé sa vie à réfléchir aux problèmes de la vie, et à formuler des choses utiles pour bien vivre. Et c'est assez redoutable de réaliser que ce qu'il nous dit il y a 3000 ans a beaucoup de pertinence en fait pour nous. D'ailleurs, il y a certains de ces slogans qui probablement font, vous les retenez. Si je vous dis vanité, tout est vanité. Ça vient de lui. Rien de, c'était une partie de la salle. Une partie de la salle est réveillée avec moi, avec la chaleur, n'est-ce pas? C'est compliqué. Mais ce sont des slogans, des propos qui ont marqué et qui marquent encore aujourd'hui. Parce qu'il se rend compte, peut-être comme nous, que la vie elle est compliquée, qu'elle est tortueuse et qu'en fait, on n'arrive pas à la vivre pleinement comme on voudrait. C'est aussi d'ailleurs un constat assez désolant. Quand on voit son parcours, on réalise qu'il a bien commencé. Il a commencé en écrivant un livre d'amour. Et on aime tous les belles histoires d'amour, hein, ça n'a pas changé. Mais il commence avec un livre d'amour qui retrace probablement son amour avec une femme, probablement son premier amour, et c'est juste magnifique. D'ailleurs, ça devrait être interdit au moins de 16 ans, parce que c'est parfois un petit peu... Enfin, voilà, c'est un peu chaud, quoi, comme lecture. Et c'est juste magnifique. Sauf que, à la fin de sa vie, il a franchi toutes les barrières qu'il a lui-même érigées. C'est-à-dire qu'on le retrouve, à la fin de sa vie, il a eu 1000 femmes. Vous imaginez ? 1000 femmes. C'est autant que Mick Jagger. Enfin, quoique Mick Jagger, c'est peut-être une autre situation. Mais bref, je ne veux pas trop rester sur lui, je veux penser à Salomon. C'est-à-dire que Salomon, il a violé les mêmes lois qu'il a trouvées bonnes au début de sa vie. Et donc, au début de sa vie, il a de bons principes, et puis il a un succès phénoménal avec beaucoup de sagesse. Au milieu de sa vie, il se rend compte qu'il doit transmettre quelque chose à ses enfants qui vont être des ministres, des princes. Et donc, il écrit Proverbes. Et puis, à la fin de sa vie, il fait le constat de tout ce qu'il a essayé de vivre. Et il nous laisse, dans ce livre, quelque chose qui nous montre que ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est vraiment le livre de l'expérience de la vieillesse. Vous savez, j'aime bien les personnes âgées parce que je suis en train de le devenir. Mais ce que j'aime bien, c'est les personnes âgées qui ont bien vieilli. Parce que certaines vieillissent mal, n'est-ce pas ? Avec beaucoup d'amertume, avec beaucoup... Mais les personnes qui vieillissent bien, avec de la sagesse, j'ai envie de les côtoyer parce qu'ils peuvent m'apprendre à vivre. Et c'est un peu le rôle de Salomon. Il a tout essayé et il a essayé en ayant les moyens de réaliser ses rêves. C'est très dangereux d'avoir de l'argent, n'est-ce pas? Parce que quand on a de l'argent, en fait, on peut l'avoir pour sa perdition. Vous ne trouvez pas? Enfin, les gens qui ont beaucoup d'argent et qui n'ont pas trop de critères dans la tête, c'est grave comment ils évoluent, non? Ils accomplissent tout ce qu'ils veulent, mais en fait, ils se détruisent en même temps. Et Salomon, il a vraiment accompli de grandes choses. Il a eu beaucoup d'argent, il s'est jeté dans le carriérisme, il a réalisé des projets immenses. Il a essayé de voir si le plaisir était la bonne chose à avoir avec ses femmes par milliers. C'est triste, parce que c'est une forme finalement d'abus que l'on a. Hein, c'est pas une belle forme de nouer des relations entre hommes et femmes. Enfin, c'est pas une belle chose. Il a eu des femmes en série, et puis il a aussi essayé de voir si l'alcool pouvait le satisfaire. D'autres utilisent le chichon, mais vous ferez les correspondances que vous voudrez. Il a tout essayé et à la fin, il parle, la conclusion, vanité des vanités. Tout est vanité, ce qui pourrait se traduire éphémère, tout est éphémère. Et en fait, dans son livre, que vous avez parcouru avec d'autres prédicateurs, et moi j'arrive juste sur la fin, dans son livre, il note deux choses qui sont des clés de vie. Et probablement que vous avez relevé déjà la première clé de vie, parce que c'est répété 7 fois. Et la première de ces clés de vie est une belle chose à intégrer dans son quotidien. Et puis la deuxième grande clé de vie, c'est pour la semaine prochaine. Vous ne voulez pas louper le dimanche, et Samuel, tant pis pour toi. Mais en tout cas, il est écrit... J'ai reconnu qu'il n'y a rien de bon pour lui, pour l'homme, sinon de se réjouir et de faire ce qui est bon pendant sa vie, et aussi que pour tout homme, manger, boire et voir ce qui est bon au milieu de tout son travail est un don de Dieu. Et en fait, ce qu'il réalise, c'est que généralement, on essaye de faire des grandes choses pour trouver du sens à la vie, et puis quand arrivent ces grands moments, ils ne nous satisfont pas. Vous avez déjà eu cette expérience? Vous préparez un grand anniversaire, ça c'est dépend des âges, hein. C'est moins intéressant à certains âges, mais vous êtes jeune ou une grande soirée, une partie juste magnifique, elle a lieu et vous ressortez dépité. Et vous avoir trouvé là de quoi vivre un vrai bonheur, et quelque part vous avez vécu un certain bonheur, mais ça ne remplit pas le cœur. Et Salomon fait le constat que finalement, les bonnes choses de la vie, c'est les petites choses. Le fait de manger, le fait de boire, avec des amis, tu as parlé de bière. Tu es un connaisseur en fait. De ne pas prendre une bonne bière fraîche entre amis. Il y a de quoi louer Dieu et c'est ça les petits bonheurs qui donnent le sens à l'existence. Et je le souligne parce que peut-être que je suis seul, mais je suis un hyper stressé de la production et de l'activité. Et de prendre le bonheur, de prendre un verre avec des amis, de jouir d'un kebab entre copains, c'est quelque chose qui donne du sens à la vie. Ce n'est pas les grandes soirées, ce n'est pas les réussites professionnelles, ce n'est pas le carriérisme, ce n'est pas les grandes choses, c'est les petits bonheurs que l'on a. Il y a un chanteur que je n'ai pas mis dans le bon ordre, mais que peut-être vous reconnaîtrez. Vous le reconnaissez? Il n'est pas très, très... Ouais, excellent. Il y en a qui sont connaisseurs ici. Et il chante un chant qui est très proche de l'Ecclésiaste, qui s'appelle « La petite monnaie », et il dit dans son chant « Un joyeux brouhaha, un chaleureux chahut, nous retient autour d'une table, la peau du ventre bien tendue. Les vieux finissent l'eau de vie, tandis que les jeunes mangent leur pain blanc, tout en chatouillant les petits qui s'étouffent en rigolant. Le repas, les repas, le dimanche matin, comme je ne sais plus qui disait, le bonheur, ça ne se trouve pas en lingots, mais en petite monnaie. Le bonheur, ça ne se trouve pas en lingots, mais en petite bonnet. Ce n'est pas une leçon de sagesse, ça? On cherche des gros lingots, il y en a qui jouent au loto pour espérer avoir le bonheur. Ils ne le trouveront pas, même s'ils décochent le gros lot, même si c'est sûr, ça va être un certain bonheur. Et donc, la première clé de vie que nous laisse ce livre, c'est cette notion que les petites choses de la vie pour lesquelles on choisit d'être reconnaissant, ce sont ces choses-là qui sont satisfaisantes. Parce que la vie, elle nous glisse entre les doigts, il y a quelque chose qui est éphémère. Et la vie a des frustrations qui sont assez énormes. Alors, vous reconnaissez le personnage à gauche, Woody Allen a dit à un journaliste, « D'autres ont eu des existences plus épanouissantes que la mienne, mais au vu de ce qui est humainement possible, j'ai eu une belle vie. Je suis en bonne santé globalement, j'ai eu du succès, des enfants, des amours, sur fond d'existence intrinsèquement tragique. Une seule chose est sûre, on va tous mourir. » Et puis il ajoute, « Les croyants sont souvent plus heureux que moi, moi qui suis ballotté par mes peurs et par mes angoisses. Mais je ne peux pas m'empêcher de les trouver stupides. Suivre les recommandations d'un prêtre ou d'un rabbin, ou d'un pasteur, mais ça c'est moi qui l'intègre, est parfaitement ridicule à mes yeux. » Fin de citation. C'est intéressant. Il voit que la vie, malgré tous ses achèvements, se termine par la mort et que finalement, elle est saugrenue, elle est sombre. Renaud parle également de sa vie, sur votre droite, parle également de sa vie, il a vieilli depuis, mais c'était la seule photo que j'avais libre de droit. Mais Renaud parle avec franchise et il dit « J'ai constamment le sentiment d'être persécuté, suivi, écouté, espionné sur mon mail, comme sur mon portable, par des gens qui me veulent du mal. J'ai des paranoïas très précises, j'ai peur de mourir aussi. Je ne sais pas d'où ça vient, c'est une maladie. Je culpabilise de vivre aussi heureux dans ce monde de malheur, de désespoir, de violence, de terrorisme, de banditisme. » Waouh ! Voilà les icônes du bonheur, ceux qui ont réussi de la vie et qui disent « Mais la vie, elle n'a vraiment pas de sens. Où est-ce qu'on va trouver de sens ?» Alors, ce soir, on reprend le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 11, puisque c'est là où mes prédécesseurs s'étaient arrêtés. J'ai vraiment des problèmes avec ce PowerPoint. Et le propos que je voudrais tenir, c'est YOLO. Il y en a qui connaissent, venant de l'étranger ici parmi nous. YOLO, you only live once. Tu ne vis qu'une fois. Et donc, comment vivre sa vie quand on vit qu'une fois? La première clé de lecture, elle a été donnée par ce que Salomon a cité en disant le bonheur, c'est de prendre, de manger, de boire, c'est les petites activités du quotidien. C'est ça qui donne le bonheur. Ce n'est pas les grandes choses, c'est les petites activités du quotidien qui donnent le bonheur à la vie. La deuxième clé qui donne vraiment le vrai bonheur, c'est pour la semaine suivante, d'accord? En attendant, quels conseils peut-il donner? Eh bien, ce sont les conseils qu'il nous donne dans le livre, dans le chapitre 11. Et je ferai en fait trois remarques à partir de ce texte que nous lisons en Ecclésiaste, chapitre 11, les versets 1 à 10. Ok? Vous ouvrez vos Bibles si vous le souhaitez, ou en tout cas le suivre avec moi. Je ne l'ai pas affiché, donc je vais le lire. Versets 1 à 10 du chapitre 11 de l'Ecclésiaste. « Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont gonflés de pluie, ils la déversent sur la terre. Et si un arbre tombe vers le sud ou vers le nord, c'est là la place où l'arbre tombera qu'il restera. Qui observe le vent ne sèmera point, qui fixe les regards sur les nuages ne moissonnera pas. » Comme tu ne connais pas le mouvement du vent ni de l'embryon dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. La lumière est douce et c'est bon pour les yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse en elles toutes et qu'il se rappelle que les jours de ténèbres seront nombreux. Tout ce qui arrive et vanité. Jeune homme, réjouis-toi pendant ton adolescence. Que ton cœur te rende heureux pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Écarte de ton cœur le tracas, éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et l'aurore sont vanité. » C'était la parole de Dieu, la Bible. Quelques remarques maintenant, et si vous avez suivi avec moi la lecture, vous réalisez qu'il y a beaucoup de choses qui sont adressées à ceux qui sont jeunes. Je ne fais pas de favoritisme, c'est juste là que le texte parle plus à des jeunes qu'à des moins jeunes. D'accord ? Donc c'est plus dans cette perspective, et finalement avec Sam qui s'en va, c'est une bonne chose de pouvoir, on ne veut pas parler que à toi, mais voilà, ça va être des éléments que l'on peut, que tu peux mettre dans ta besace ou dans tes chaussettes. La première chose, c'est sois généreux. Je ne sais pas si vous avez perçu ce qui est dit à partir de versets 1 à 3. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Peut-être vous avez fait cette expérience en vous promenant au parc de la Tête d'Or, pas très loin, avec des enfants ou des petits-enfants, quand même que j'ajuste à certains cheveux blancs ici, vous partez avec vos enfants ou vos petits-enfants et puis vous allez au parc de la Tête d'Or et là il y a des cygnes, il y a des canards, il y a des oiseaux et vous jetez du pain à la surface de l'eau parce que la Bible dit vous le retrouverez. Et vous savez ce qui se passe? Plouf, ça coule. C'est-à-dire que le pain, il ne revient pas. Il est soit mangé, soit dévoré, soit absorbé par l'eau et l'eau, le pain, il coule. Pourquoi la Bible dit ça? C'est un mensonge. Jette ton pain à la surface de l'eau et tu le retrouveras. Qu'est-ce que Salomon veut dire en cela? Ça paraît être en fait un geste assez stupide, mais l'idée plutôt est ailleurs. C'est que pour recevoir un retour sur investissement, il faut investir. Ça, ça commence à parler un peu plus. Et donc ce que Salomon souligne, c'est qu'il faut apprendre à être généreux pour pouvoir bénéficier un jour de la générosité. Et que ça, c'est quelque chose que l'on apprend que quand on est jeune. Tu sais pourquoi? Parce qu'on n'apprend pas à un chien âgé de nouveaux trucs. C'est quand on est jeune que l'on développe des habitudes qui vont demeurer avec nous tout au long de la vie. Et donc ce que Salomon souligne, il dit voilà, c'est cette générosité que tu dois apprendre et même de donner jusqu'à 7 à 8 personnes de quoi manger. Parce que alors tu le retrouveras. Tu le retrouveras quand? Ben, tu le retrouveras quand il n'y aura plus de pain. C'est un peu l'idée qui est sous-jacente dans des pays et dans des époques où on n'avait pas un système de distribution si régulier, des systèmes de salaire si réguliers, et où parfois il n'y avait rien à manger. Ou bien parfois il n'y avait pas de travail et on dépendait des autres quand on était vraiment coincé. Je vais le redire différemment. Si Pierre perd son travail et que Jean lui donne à manger et que quand Pierre retrouve son travail, que fera Pierre plus tard si Jean perd son travail? Vous m'avez suivi? C'est un examen de bac qui pourrait tomber un jour. Enfin, c'est un petit exercice de bac. Voilà. L'idée, c'est quoi? C'est que si on apprend à être généreux, on sera au bénéfice de la générosité. Alors peut-être vous vous dites, ah mais zut, j'ai pas beaucoup d'argent moi, je peux pas être généreux. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'être généreux seulement avec de l'argent. On peut être généreux avec son temps, on peut être généreux avec son amour, on peut être généreux avec son regard, on peut être généreux avec ses encouragements, on peut être généreux avec tout ce qui fait que on devient quelqu'un qui fait du bien autour de soi. Et ce que Salomon souligne, c'est que avec cela, on récupère ce que l'on a investi. Alors, Salomon utilise ces deux images du nuage gonflé et qui dit, quand le nuage est gonflé, ben, c'est là que la pluie tombe. C'est des remarques assez profondes hein, pour un dimanche soir. En même temps, il fait chaud, il ne faut pas que ça aille trop loin dans la tête. Hein. Ou bien, quand l'arbre tombe, c'est là où il est. Oui, en fait, je peux le constater, un jour, on a dû couper un cerisier. Un gros cerisier qui commençait malheureusement à dépérir, mais vraiment mastoc. Et donc, dans ma grande expérience de bûcheron, je me suis dit qu'une fois coupé, ce serait facile de le bouger. Eh bien, en fait, non. Une fois qu'il est tombé, il est tombé. Et c'est exactement ce que Salomon dit, et c'est exactement ce qu'il nous dit quelque part. La générosité que nous avons posée dans nos vies va nous suivre. Et il n'y a jamais un moment futur où il faut l'apprendre. On l'apprend maintenant, parce que quand arrivera plus tard, on ne fera que récupérer ce que l'on a été. Et ces deux images nous montrent qu'on ne se bonifie pas nécessairement en vieillissant. Ce qui est intéressant, c'est que, et c'était un des points que j'ai soulevé, je suis navré pour ceux qui étaient à QC ce matin, mais ce qui est intéressant, c'est que le focus de notre génération est bien sûr très centré sur l'individu. On a de moins en moins la facilité de créer des communautés qui soient interdépendantes. Et j'étais surpris de réaliser par la lecture de Timothy Keller, qui est un pasteur de New York, et il citait un philosophe qui faisait le constat, il y a un siècle, et voilà ce qu'il disait, c'est que les êtres humains ont besoin d'une cause pour laquelle ils sont prêts à se sacrifier pleinement. Ce philosophe était convaincu que les hommes ne pouvaient être heureux qu'en donnant à leur vie un sens dépassant leur propre bonheur. Il pensait donc qu'on ne pouvait donner un sens à sa vie qu'en rejetant l'individualisme. L'individualiste, citation, privilégie son intérêt personnel, sa propre souffrance, son propre plaisir et sa propre existence étant ses plus grandes préoccupations. Fin de citation. Maintenant, un siècle plus tard, un autre philosophe remarque, Charles Taylor, qu'aujourd'hui, tout est centré sur soi-même. Sur le nombril, sur le fait de se satisfaire soi-même. Et en fait, ça laisse de plus en plus de gens secs, tristes et isolés. C'est surprenant, hein ? Plus on apprend à être généreux vis-à-vis des autres, plus on reçoit, en fait, ce qui fait écho à une parole de Christ, il y a plus de joie à... Ah, elle est connue aussi, cette phrase. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et donc, Salomon continue avec une deuxième remarque. Dans une culture qui minimise le risque, prends des risques. C'est dans la jeunesse qu'il faut prendre des risques. Après, c'est plus compliqué parce que les risques engendrent des conséquences plus nombreuses lorsqu'on a famille, qu'on a des investissements comme des maisons et autres. Et Salomon, qui est un fin connaisseur de l'existence, continue avec le verset 6. « Qui observe le vent ne sèmera pas, qui fixe les regards sur les nuages ne moissonnera pas. Comme tu ne connais pas le mouvement du vent, ni de l'embryon dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main. » Car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un ou l'autre sont également bons. Si vous comparez des villages irlandais et des villages italiens, en fait, ils n'ont que le « i » en commun. La météo les sépare grandement. Et pour celui qui fait la lessive, en Italie, il n'y a aucun problème. Il sait ou elle sait quand est-ce qu'il peut étendre le linge. Le soleil y est radieux et les choses sont prévisibles. Quand vous êtes en Irlande, par contre, ça, c'est toujours un risque. Vous ne savez jamais si vous pouvez étendre le linge parce qu'il pleut tous les jours, mais pas longtemps. Il pleut tous les jours. Et donc, on n'est jamais sûr de ce que l'on fait. Et l'idée que nous donne ici Salomon, c'est de dire, écoute, à l'époque déjà, semer, c'était parfois un exercice profondément triste. Pourquoi ? Parce que vous semiez et vous aviez des rongeurs qui venaient manger les graines. Ou bien vous semiez et vous avez une tempête qui bougeait les graines chez votre voisin. Et donc tout ce que vous aviez gardé sur lequel vous comptiez pour vous nourrir pouvait partir en fumée. Enfin en fumée ou dans l'estomac des rongeurs ou bien dans le champ des voisins. Et Salomon souligne qu'à un moment donné, on ne peut rien prévoir de la providence de Dieu. Et je trouve qu'on fait partie de cette génération, plusieurs d'entre nous, faisons partie de cette génération qui ont été abreuvés du risque zéro. Alors que Salomon nous dit, la vie, elle est imprévisible et elle nous invite, surtout si nous avons cette confiance et cette conscience de Dieu, à prendre des risques. Certains disent, je ne vais pas passer cet examen, des fois que je le raterai. Je ne vais pas commencer cette entreprise. Des fois qu'elle ferait faillite. Je ne vais pas la demander en mariage, des fois qu'elle me dirait non. Je ne vais pas faire un voyage avec portes ouvertes, des fois que j'aurais peur. Je ne vais pas faire un camp ou une colonie, si les animateurs étaient méchants avec moi. Ou bien je ne vais pas faire la cuisine, ça va me fatiguer. Mais comme le mouvement de l'embryon dans le ventre d'une femme enceinte sont invisibles, ainsi en est-il de la providence de Dieu. Salomon, qui essaye de former ses jeunes fils qui sont maintenant adultes, leur fait prendre la mesure des choses. Dans le monde de l'entreprise, certains sont des monsieur Hayek. Ça vous dit quelque chose ? Ouais, il est mort maintenant, je crois. Hein ? Je ne suis pas sûr. Mais c'est un gars qui a toujours tout réussi dans la vie. Et notamment, on lui doit la résurrection de toute l'industrie des montres suisses grâce à Swatch et tout ça. Apparemment, chacun de ces risques était bien réfléchi. Mais il y en a d'autres qui sont plutôt comme monsieur Croc. Ça vous dit quelque chose ? Lui, c'est un raté de l'entrepreneuriat professionnel. Et puis, vers 52 ans, il est devenu milliardaire pour avoir inventé le Big Mac. C'est lui le fondateur de McDonald's. Et c'est 52 ans. Je crée des passions et des désirs pour... Et finalement, je me dis que ce que Salomon nous laisse ici, c'est comme la vie, elle est éphémère. Comme la vie, de toute façon, elle nous glisse entre les doigts. Comme on va tous mourir, et c'est le thème qu'il développe au chapitre 9, et c'est le thème qu'il développe dans d'autres endroits de l'Écriture, et qu'on va regarder plus en détail avec Ecclésias chapitre 12. Comme la vie, elle est si fugace, on doit apprendre les choses qui comptent. Et les choses qui comptent, ici, c'est d'être généreux, et c'est de prendre des risques. Et puis, le dernier point que je souligne, et sur lequel je voudrais revenir avec plus de détails, c'est de relativiser les jours. C'est de relativiser les jours. Salomon dit, si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse en elles toutes et qu'il se rappelle que les jours de ténèbres seront nombreux. Tout ce qui arrive est vanité. Jeune homme, réjouis-toi pendant ton adolescence. Je trouve que c'est vraiment un propos qui contraste avec une vision assez étriquée de la vie chrétienne que parfois nos jeunes ont entendue dans les églises. Avec l'idée que si l'on est chrétien, on ne sourit pas. Ce n'est pas trop cette église je vois, alléluia, et ce n'est pas trop l'église d'où je viens non plus, alléluia. Mais il y a cette idée parfois que si on se réjouit, ça ne vient pas de Dieu. Que s'il y a des choses dont on profite, c'est un danger de nous conduire sur le chemin de l'idolâtrie. Et c'est toujours un danger. Mais néanmoins, Salomon dit et que l'on doit cultiver le bonheur des bonnes choses. Que quand on part faire des soldes, ce n'est pas mon loisir favori. Mais que quand, si c'est votre loisir, je le respecte, je prierai pour vous. Mais si c'est votre loisir favori, de jouir de l'opportunité qui nous est donnée, d'acheter à moindre prix quelque chose qui nous fait plaisir, de profiter d'un concert en incluant Dieu qui nous donne le cadeau des arts, qui nous donne le cadeau de la vie et de profiter de cela, de manger un kebab ou je ne sais pas, avec, ça fait deux fois que je cite je crois les kebabs, hein, c'est pas une obsession, hein, mais de manger chez Bocuse, non ça c'est un peu trop compliqué à gérer financièrement, bref, de profiter des éléments de la vie, ça fait partie de ce qui donne sens à la vie. Tu sais pourquoi ? Ou pardon, vous savez pourquoi ? Parce que, Ecclésias le dit ici, parce qu'il y a des jours qui seront tristes et ils seront même nombreux. C'est-à-dire qu'avec le temps, il y a certaines vies parfois qui se complexifient. Il y a certaines situations que Dieu permet qui sont des situations de souffrance, des maladies, des situations de deuil, des situations de chômage, des situations où les choses ne vont pas même dans son propre cœur. Parce que le monde est fissuré à cause de la séparation d'avec Dieu et que justement le monde ne se passe pas toujours comme on veut. Ça veut dire, relativise les jours. Quand il y a du bonheur, mais il faut en profiter à fond en incluant Dieu dans cela. Je pense qu'en tant que parent, on a ce devoir de sourire jusqu'aux oreilles devant les cadeaux que Dieu nous donne avec nos enfants. Je crois que on doit vraiment profiter de montrer combien Dieu est bon pour la vie qu'il nous a donnée et pour les éléments qu'il nous a donnés. Le temps passe et je vais arrêter avec quelques remarques de conclusion. J'ai parlé de prendre des risques et c'est vrai que petit à petit, je crois que notre société est en train de créer des hommes et des femmes qui perçoivent que le plus grand danger, c'est de prendre un risque. C'est vrai, non ? Enfin, je trouve que c'est un peu cette idée. Et finalement, ça reflète un mantra que je perçois en France. Si on demandait aux Français quel est votre plus grand désir, ce serait la sécurité. On a chaque pays, chaque culture a des valeurs clés. Je crois que la valeur clé d'un Français, peut-être je me trompe et je serais heureux d'en discuter avec vous, c'est donne-moi la sécurité. C'est ça. Il y a une aversion pour le risque. Et peut-être que ça nous protège aussi cela. Mais voilà, ce que je trouve dans l'Ecclésiaste, c'est un petit conseil à oser pousser les frontières. Deuxièmement, relativiser les jours. Finalement, ce n'est pas si grave un échec. Un échec, ça peut être drôlement formateur. Et je remarque que Salomon, il nous laisse quand même un écrit qui est pétri de ses propres échecs. Parfois l'échec, parfois la chute, est ce qui va nous apprendre le plus sur la grâce, sur la personne de Dieu, sur le sens de la vie. Relativiser les jours. Je me souviens un jour, j'étais confronté en Centrafrique à un moment où je pensais que j'allais mourir. J'ai des circonstances un peu compliquées, j'étais au fin fond de l'Afrique. En fait, ma vie n'a jamais été en danger. C'est moi qui ai fabulé à cause de l'environnement. J'étais perdu dans un petit village et puis là, il y avait eu une mutinerie. Ce n'était pas moi, je n'étais pas responsable de ça. Et l'ambassade française m'avait dit, il faut que vous restiez sur place, c'est dangereux de voyager. Et ce soir-là, il y avait des obsèques dans un village voisin. Et les obsèques en Afrique, ce n'est pas comme en France. En France, c'est discret, c'est dans des... Là-bas, c'était des hurlements, des tam-tams. C'est très oppressant et je n'arrivais pas à dormir. Je m'imaginais qu'on allait retrouver le lendemain mon corps criblé de balles à cause des mutins qui allaient nous mitrailler sur le chemin. Et donc j'ai allumé ma lampe de poche sous ma moustiquaire, comme ça, j'ai essayé de la caler, puis j'ai écrit un petit mot d'amour sur ma femme, à ma femme et à mes enfants. J'ai dit, ouais, on retrouvera ça de moi. et c'est, ce qui est très intéressant, c'est que dans ces moments-là, pour le coup purement imaginatif de mon côté, mais dans ces moments-là, on se rend compte qu'il y a peu de choses qui comptent d'une vie. Il y a peu de choses qui restent. C'est vrai, hein ? C'est, l'iPhone n'est pas la chose à laquelle on pense le plus. C'est ce jour-là, ce moment-là. L'amour, peut-être. Les relations que l'on a tissées, peut-être. Il faut relativiser les jours. Et puis j'ai évoqué, c'était un des points, c'est d'être généreux. Et finalement, cette générosité, c'est celle que Christ manifeste, non ? Et j'aimerais penser à intégrer un peu toute cette expérience que Salomon décrit avec cette expérience que Christ a vécue, lui qui a vraiment été généreux. Parce que du Dieu qu'il est de toute éternité, il a décidé de vivre quelques années dans notre pourriture. Je ne sais pas si j'ose en parler en ces termes-là. En tout cas, c'était un peu un panier de crabes. D'ailleurs, il a fini sur la croix. Et il a connu le monde tel que nous l'avions, tel que nous le vivons, parce qu'il a voulu donner de sa générosité. Il n'a pas pris de risque dans le sens où il est souverain, il savait exactement ce qu'il allait vivre. Mais néanmoins, il y a une connexion, je trouve, magnifique, qui donne sens à ce que Salomon nous dit. Pourquoi ? Parce que j'ai dit que le monde était fissuré, cassé, peut-être vous le ressentez, enfin probablement si vous êtes chrétien, c'est quelque chose dont vous êtes vraiment conscient, la Bible en parle comme du péché, je sais que c'est un gros mot qui fait un petit peu suranné également, le péché, en tout cas qui est simplement la description du fait que nous n'avons pas vécu selon les normes de Dieu, selon les normes éthique de Dieu, mais tellement qu'on est éloigné de lui, et on est éloigné de lui à jamais. Et la perception que l'on a de cet éloignement souvent passe par ces émotions-là. Selon votre culture et selon votre éducation, vous allez ressentir plus particulièrement de la culpabilité. Ça, c'est notamment si vous avez vécu une éducation extrêmement rigoureuse, catholique, protestante, ou même issue du judaïsme, avec toute une série de lois, et vous êtes très conscient que vous avez franchi ces lois, que vous les avez dépassées, et vous vous sentez coupable à l'intérieur. Il y a un autre sentiment qui parfois est vécu, c'est le sentiment de honte. Et ça, c'est plus la génération Facebook qui ressent la honte, le shaming, qu'on n'apprécie pas un poste ou qu'on nous exclut d'un groupe ou je ne sais quoi. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui représente particulièrement bien les sociétés et les civilisations plus nord-africaines ou parfois orientales. Et le sentiment qui prédomine l'individu qui se sent brisé à l'intérieur, c'est le sentiment de honte. Dans d'autres cultures, c'est le sentiment de la peur. Les gens vivent, et c'est le cas dans certaines régions d'Afrique ou certaines régions d'Asie, les gens vivent dans une peur parce que pour eux, ce qui domine la vie, ce sont les esprits et les ancêtres. Il faut absolument les apaiser, il faut absolument leur donner des offrandes. Et les gens vivent dans la peur du lendemain, la peur d'une certaine superstition. Je critique aucunement ce que je viens de dire. C'est juste une réalité de perception. Et si vous avez grandi dans aucune de ces cultures, dans aucune de ces perspectives, il est très probable que, comme l'Ecclésiaste, votre perception d'un monde brisé, c'est la douleur. On veut aimer et être aimé, et ça ne marche pas. On sent quelque chose profondément de brisé dans ce monde, et on le ressent comme une douleur vive dont on ne sait pas exactement d'où elle vient. La bonne nouvelle, et je termine là-dessus, c'est que lorsque Jésus vient mourir à la croix, il absorbe la cause de ce mal-être qui est le péché. C'est comme une éponge qui vient absorber l'ensemble des maux que nous avons commis, dont les conséquences, les ressentis que j'ai évoqués, sont tellement violents que parfois ils nous désespèrent. Mais à la croix, Jésus offre à la place de notre honte, il nous offre son honneur. De notre culpabilité, il nous offre sa justice. De notre peur, il nous donne sa victoire. Et de notre douleur, il nous donne un plaisir. Un plaisir parce que la première chose que Jésus fera avec nous, après qu'il ait essuyé toute larme de nos yeux, c'est de prendre un repas avec nous. Le bonheur de le connaître va devenir un bonheur éternel pour l'ensemble de l'éternité. Alors voilà, Salomon, il n'avait pas encore toutes les clés. Il va nous en donner une autre clé. Et vous avez déjà remarqué qu'il la prépare parce qu'il dit « Jeune homme, profite de tout, mais attention, Dieu te fera venir en jugement ». Et malheureusement, ce jugement est si terrible, si absolu, qu'aucun homme, aucune femme, en dehors de Jésus-Christ, ne pourra tenir face à ce jugement qui nous placera dans la présence de Dieu ou dans l'éloignement de Dieu, et ce, à jamais. Alors, l'espérance qui nous est présentée, elle est en creux, en quelque sorte. Ecclésias nous dit, la vie est dure, elle ne marche pas bien, et il dit, mais il y a quelque chose qui va transcender l'existence et ses malheurs, et il va en parler la semaine prochaine, en Ecclésias chapitre 12. Mais en attendant, il y a cette perspective qui vient quelques siècles plus tard avec Jésus-Christ. Et j'espère que ça vous intrigue suffisamment pour avoir le désir d'en savoir plus en lisant un évangile ou en découvrant ce que Jésus vient proposer qui répond aux aspirations les plus profondes de notre existence. Je m'arrête ici et je vous invite à la prière. Merci.